tissu. Et le deuxième, le vin. Et c'est pas très compliqué. Une pièce de tissu qui ne correspond pas cache de vêtements. C'est tout. Quand j'étais à l'université, je travaillais dans un pressing pendant 6 ans. C'était comment j'ai pu payer pour aller à l'université. Et j'ai appris vite, d'accord, que certains vêtements, on ne pouvait pas les laver dans l'eau chaude. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ça diminue. Et la personne arrive au guichet et elle n'est pas contente parce que ce qui était bon avant n'est plus bon. Et on a un problème. Ce que Jésus dit, c'est si vous avez un vêtement qui a été lavé à plusieurs reprises et vous avez un truc dont vous voulez faire coudre, vous voulez couvrir le trou avec de nouveaux tissus, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'une fois que vous lavez le nouveau tissu, ça va faire croître. Ça va réduire dans la taille et ça va prier, ça va tirer contre l'ancien tissu et ça sera pire qu'avant. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'ancien tissu ne va pas avec le nouveau. Le deuxième, c'est presque la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas convenable. Il n'est pas convenable qu'on mette du vin nouveau dans une outre, une vieille outre. Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que les outres étaient faites du peau, des animaux, et ils perdent l'élasticité avec l'âge. Donc, vous prenez un ancien, vous mettez du vin nouveau, on a la fermentation et les gaz qui... Et tout d'un coup, on gâche le vin parce que l'outre se casse. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y a certaines choses qui ne sont pas convenables avec sa présence. Et c'est la jeûne. Parce que la jeûne, à cette époque-là, était associé avec quoi? La tristesse, la détresse et la repentance. Alors on est tous ensemble? Ça c'est très facile, je pense. On voit ce que Jésus veut dire. Certaines choses ne vont pas avec ma présence et la jeûne, c'est ce qui ne va pas. Ça nous amène au deuxième point, la présence de Jésus est la source de joie. Au verset 36, ça c'est ce que nous avons vu. Jésus dit que sa présence est comme la joie suscitée par la présence du marié qui lance la fête du mariage, des noces. D'accord? Par exemple, on prend un passage de Matthieu. C'est un passage qu'on connaît bien. Mais dans ce passage, ce qu'il veut enseigner, c'est qu'il faut être toujours à l'air et prêt pour aller. Et pour nous, en tant que chrétiens, les disciples de Jésus, cela veut dire qu'il ne faut pas vivre comme cette vie et tout ce qu'il existe. Parce que Jésus reviendra, il faut être prêt. Mais on ne va pas regarder cet aspect du passage. On veut juste noter qu'est-ce qui se passe dans le passage. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quelle est la conséquence pour ces vierges qui étaient folles? Ils ont raté la fête. La présence de l'époux signalait quoi? Le début de la fête. Écoutons maintenant Jésus quand il dit, ils ne peuvent pas jeûner quand l'époux est là. Pourquoi? Parce que sa présence signale le début de la fête. C'est pourquoi ils sont contents, pourquoi ils ne jeûnent pas, parce qu'ils sont avec l'époux et les fêtes, la fête. Elle est commencée. Donc Jésus est l'esprit de joie et de bonheur. Laisse ça entrer dans nos âmes. Parce que nous avons dans nos âmes, par nature, une caricature de Dieu. Il est contre le bonheur. Il est contre ma joie. Il est contre l'épanouissement. Il ne veut pas que je fasse ce qui me fait bien. Ça, c'est comment nous pensons naturellement. Et notre société encourage ce genre de pensée. Dieu est contre nous. Il faut nier qu'il existe pour qu'on fasse ce que nous voulons. Ça, c'était un peu le raisonnement derrière la révolution sexuelle. On ne veut pas que Dieu nous dise ce qu'on peut faire. On fait ce qu'on veut. Mais Jésus veut dire, non, moi je révèle Dieu, le Père, parfaitement. Et en fait, regardez à moi et mes disciples. Ils sont pleins de joie. La fête est arrivée. Je suis l'esprit de joie et de bonheur, c'est pourquoi ils ne jeûnent pas. Et la question pour nous ce matin, est-ce que ça c'est notre vision de Dieu? Qu'il veut notre bonheur. Et pour moi, personnellement, dans mes réflexions, on va parler un peu plus tard, mais on peut répondre facilement à cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand la pression de la vie arrive? Nous cherchons le bonheur. Dans la nourriture, dans la présence d'autres personnes, dans l'alcool, dans les vidéos, les films, la musique, les livres. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça va révéler à nous. Où est la source de notre joie? Est-ce qu'on prie tout de suite? Est-ce qu'on dit merci Seigneur? Pour moi, tu es à moi. J'ai tout ce qu'il faut. C'est difficile, mais il faut développer dans nos vies. Juste quelques passages, parce que Jésus, quand il dit que je suis l'esprit de joie et de bonheur, il ne dit pas quelque chose de nouveau. J'ai pris juste 4 versets des psaumes. Mais il y a beaucoup d'autres qui disent presque la même chose. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause de leur roi. Moi, Dieu. Juste, c'est les personnes qui croient. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et célébrez par vos louanges sa sainteté. Réjouissez-vous en lui. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ça, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament. Ce n'est pas Oui, servez le Seigneur parce qu'il peut vous tuer. Qui veut un Dieu comme ça? Et c'est pourquoi on a du mal. Mais quand Dieu vient et dit, venez à moi parce que je vais vous donner la joie. Je veux que vous soyez plein d'allégresse et je suis la source. Ça, c'est l'enseignement de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est ce que la vie de Jésus a illustré pour nous. Pourquoi il ne jeûne pas? Parce que moi, la source de vie et de joie et de bonheur est avec eux. La jeûne ne convient pas avec moi. Mais la troisième chose, c'est juste que Jésus implique sa nature divine ici. Quand il dit, il ne peut pas, okay, on est 34, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Pourquoi il a choisi cette idée? Juste quelques passages de l'Ancien Testament. En Ézéchiel, par exemple, 16:8. Je passais près de toi, c'est l'Éternel qui parle. Je te regardais, et voici ton temps était là, le temps d'amour. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. C'est une image d'un mariage. Ou en Osée 2, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Il dit oui, je suis la source de joie. Et il s'appuie sur l'enseignement de l'Ancien Testament que oui, bien sûr, l'Éternel était la source de joie pour eux. Mais il va un peu plus loin en disant, moi je suis l'époux. Dans l'Ancien Testament du Juif, vous avez lu que c'est l'Éternel qui était l'époux d'Israël. L'époux est là. L'époux est là. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, on peut dire oui, donc, Jésus est là, Dieu est avec nous, il n'y a plus de place pour la jeûne parce qu'on n'a plus de tristesse, la source de joie est avec nous. Ah oui et non. Oui et non. Jésus dit que l'absence physique suscite la tristesse et l'envie. Ça c'est le 35. Donc il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Quand on enlève la source de joie, on a quelque chose, on a une douleur profonde en nous, n'est-ce pas? Parce qu'on veut l'avoir à nouveau. Et c'est pourquoi, si on pense aux drogues, pourquoi ils font vraiment les dégâts? Parce qu'ils nous donnent la joie, mais ça passe, et il faut les prendre à nouveau. Et de nouveau, et de nouveau, et plus de quantité, et plus proche, jusqu'au point où ça gâche la vie. Et on peut dire la même chose pour les jeux de vidéo, les films, l'alcool, la musique, toutes ces choses, la nourriture. Toutes ces choses sont comme ça parce que nous avons eu un moment de bonheur et on veut l'avoir à nouveau, n'est-ce pas? Et donc on le cherche. Ça, c'est ce que Jésus dit. Et c'est pour aujourd'hui aussi. Parce qu'on a Paul qui dit quoi? Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Voulez-vous être les Philippiens? Paul, il veut partir, mais il doit rester en raison de vous. Mais est-ce que vous voyez, Paul, il a eu cette vision, la joie c'est en Jésus-Christ. franchement, je préfère de ne pas vivre ici, mais d'aller être avec lui. C'est la même chose qu'ils disent en 2 Corinthiens. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Un problème. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ils préfèrent mourir parce que de vivre dans ce corps signifie qu'on est loin du Seigneur. Mais on dit, my God, Jésus a dit que c'est mieux qu'il part et qu'il donne le Saint-Esprit. Jésus a dit, et Paul dit, qu'on a l'Esprit de Jésus en nous, donc Jésus habite en nous. Est-ce que le jeûne et la tristesse et l'envie, est-ce que ça convient avec la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Ou est-ce que Paul, est-ce qu'il a un problème théologique ici? Je pense que ce n'est pas trop difficile. Hein? C'est vrai que nous avons la présence du Seigneur avec nous. Et quand nous avons des problèmes, le Saint-Esprit fait son ministère pour dire on est là avec nous. Je suis là avec toi. Et on est consolé. Mais qui ici ne veut pas voir Jésus tête à tête, face à face, visage à visage? C'est ce que Jean dit. Nous ne savons pas ce que nous serons, mais nous savons que nous serons comme lui. Et il y a toujours cet aspect. Nous sommes des créatures corporelles, physiques. On aime bien ce qu'on peut toucher. Et c'est vrai que c'est un privilège d'avoir Dieu en nous, Jésus-Christ avec nous dans l'esprit. Mais le jour arrive où nous serons avec lui dans nos corps. Plus d'absence. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, avec nos familles aux États-Unis, vos familles ailleurs. La technologie aujourd'hui, c'est incroyable. On peut parler, on peut les voir, on peut leur parler. Comme on est dans la même chambre, la même maison. Mais nous savons que nous ne sommes pas. Et ça nous donne un peu de joie, mais nous avons toujours dans la tête, si seulement j'étais là, si seulement il était avec moi ici, on peut toucher, on peut rigoler dans la même pièce. C'est différent, n'est-ce pas? Et ça soulève la question. Est-ce que vous avez de la tristesse et de l'envie pour la présence physique et proche de Jésus? Ça, c'est une question un peu dure qui perce un peu. Combien de fois par jour disons-nous, ah, j'aimerais bien Jésus être avec toi? Ou est-ce qu'avec le moindre de suggestions qu'on peut mourir, on est rempli de crainte, d'anxiété et de résistance? C'est une question qui, je pense, qui est juste et qui vient du passage et qui révèle notre vision de Dieu. On arrive quatrièmement au rôle de la jeûne dans la vie chrétienne. Et on sait que l'Église, après la résurrection de Jésus-Christ, même après Pentecôte, les chrétiens faisaient les jeûnes. D'accord? Donc nous voyons que ce n'est pas quelque chose qui ne convient pas avec la présence de Jésus-Christ dans l'esprit. Mais quel est le rôle de la jeûne dans la vie chrétienne? La jeûne n'est pas magique. Ce n'est pas une façon de manipuler Dieu. Un peu comme dans les prisons aujourd'hui, on ne mange pas jusqu'au point où vous faites ce que nous voulons. On ne manipule pas Dieu pour faire ce qu'il veut. D'accord? C'est plutôt pour nous aider. Dans le meilleur cas, La jeûne exprime notre désir d'être avec notre Seigneur. Ça, c'est dans le meilleur cas. On est tellement attristé de ne pas être avec Jésus-Christ, de ne pas le voir comme les disciples lorsqu'il était sur la terre, que nous n'avons pas envie vraiment de manger. J'avais un ami quand j'étais à l'université. Il s'est épousé avec une fille, et ils attendaient leur mariage, et lui, il était tellement attristé par le fait qu'elle est rentrée chez elle pendant l'été, donc elle restait au travail où nous étions, qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas, mais lui, il voulait être seul pour penser à elle, pour l'appeler. Il n'avait pas envie de manger. Est-ce que nous sommes là? Probablement pas. Je ne suis pas là. Et ça m'amène au deuxième rôle. Je pense que dans la réalité, pour la plupart de nous, la jeûne nous aide à retrouver la tristesse de ne pas être avec notre Seigneur. Et comment? En autant des distractions. Nous vivons des vies énormément distraites par tout ce qui se passe. C'est vrai? On se lève le matin tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le téléphone peut-être? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que mes amis ont fait pendant la nuit? Est-ce que j'ai reçu des messages? On se lève, on se prépare. Lorsqu'on mange, peut-être on regarde la télévision, on écoute quelque chose. Dans le métro, on met les casques, ou des écouteurs. On peut écouter dans le métro ici. J'étais à Paris. Dans le bus, dans le tramway. Lorsqu'on marche, on écoute la musique, on écoute quelque chose, ou on regarde une vidéo sur notre portable, ou on travaille, on rentre, on regarde la télévision, peut-être un film, quelque chose pour se détendre la nuit, et on se couche. Et nos cœurs et nos têtes sont pleines 100% du temps. On ne peut pas même être attristé. Parce que on est distrait par toutes ces choses dans la vie. Mais si nous faisons une jeûne, et c'est peut-être c'est quelque chose qu'on ne mange pas, ou peut-être c'est on décide de ne pas faire quelque chose. Je vais laisser tomber la télévision, les jeux de vidéo, les livres, je ne sais pas quoi. Pendant une semaine, je ne fais pas pour gagner 30 minutes, une heure. Que je peux méditer sur Jésus-Christ. Mais la deuxième chose, c'est qu'on ôte des choses qui assouvissent d'une manière superficielle notre soif pour Dieu. On cherche la satisfaction, n'est-ce pas? Et on cherche dans ce qu'on mange, dans le divertissement, dans nos relations. On cherche. Et tout d'un coup, on dit, moi, j'ai besoin de rien parce que je suis toujours plein, mais ce n'est pas une bonne chose. Et je vous raconte ce qu'un ami m'a dit. Il a dit, Michael, je me suis rendu compte un jour que je buvais presque jamais l'eau. Je bois presque jamais l'eau. Parce que je n'ai pas soif. Il a dit, je me suis rendu compte que je bois du coca, du café, du jus, tous ces autres trucs, mais je ne bois pas de l'eau. Et nous savons maintenant, n'est-ce pas, nous savons que toutes ces autres trucs ne sont pas bons pour la santé. Il n'avait pas soif. Donc, sa soif a été rassasiée, mais superficiellement et dans une manière qui n'était pas bonne pour la santé. Il n'avait pas soif, mais il buvait des choses qui ne savaient pas. Et il m'a dit, Michael, tu sais ce qui est arrivé? J'ai arrêté de boire du coca, du jus, toutes ces autres choses, et j'ai trouvé que j'avais vraiment soif pour l'eau. Que rien ne satisfait comme l'eau. Et ce que je crains vraiment, c'est que dans nos vies, nous avons le même problème, mais au niveau spirituel. Nous avons les âmes qui crient pour Dieu. Je veux avoir quelque chose qui vient de Dieu, le bonheur, la joie. Mais nous sommes en train toujours de boire le coca. Une vidéo ici, un match de foot ici, de la musique ici, une conversation avec un ami, un copain, copine ici, un livre là. Et on dit, mais oui, je suis satisfait, je n'ai pas envie vraiment de rien, je suis content, je suis bon. Mais en fait, on est comme une personne qui boit toujours le coca. Et un jour, on arrive dans la vie, n'est-ce pas? Si on boit le coca pendant 25 ans et pas de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? J'imagine que ce n'est pas les bonnes choses. Pas des bonnes choses. Et on arrive à la fin de la vie, on a des problèmes de cœur, diabète, beaucoup d'autres choses. Et nous sommes reconnaissants de ça ici. On dit non, on ne boit plus ça, on mange beaucoup moins de ça, pas de gras. Non, on est bien et ça c'est une bonne chose. Mais quand nous pensons à nos vies spirituelles, est-ce que nous pensons si je vis comme ça, dans 25 ans, je serai comme ça dans mon âme. Je serai un homme de 67 ans, de 70 ans peut-être, et je serai obligé de dire que je ne suis pas content. J'ai mangé toutes ces choses dans ma vie, j'ai des sacrés souvenirs, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai pas Dieu. J'ai pas ma relation avec Dieu qui est proche. Et ça, c'est pour nous le défi pour ce matin. Est-ce qu'on va reconnaître en Jésus-Christ que Dieu et Dieu seul est notre source de joie et de bonheur? Jésus est venu. Et il dit, comment on peut jeûner si l'époux est là? Mais quand l'époux est enlevé, ils vont jeûner. Est-ce que nous voyons que Dieu est notre source de joie? Et sinon, peut-être c'est le moment pour nous, chacun de nous, de considérer. Est-ce que je dois faire être alimentaire, peut-être pas. Mais est-ce que je dois enlever de ma vie des distractions et peut-être même des idoles pour que je peux retrouver en Dieu ma joie? Prions ensemble.